Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. RMC,
entre les poteaux,
Christophe Cessieux.
Salut à tous, pour la première fois dans l'histoire du rugby français, un club breton fera partie du gratin la saison prochaine. L'élite du top 14 pour le rugby club Vente qui est allé arracher sa place parmi les grands en dominant Grenoble en finale de Pro D2 ce samedi. Une formidable consécration pour le club du Morbihan qui avait déjà été précurseur en matière de professionnalisme dans la région et qui va désormais pouvoir accueillir au stade de la Rabine les stades toulousains, RC Toulon et autres Racing et Stade Rochelet, le cousin de l'Atlantique. Mais après la fête, les emmerdes commence pour les dirigeants bretons qui n'ont que quelques jours pour trouver des sous et des hommes, histoire de ne pas aller jouer le rôle de figurant ou de punching ball dans ce top 14 où il est tellement difficile de survivre. Alors comment faire? Eh bien nous allons poser la question, les questions dans un instant, à Olivier Cloarec, le président du RCV, déjà à pied d'œuvre pour tenter de faire grandir encore un peu plus un club qu'il a déjà emmené jusqu'en top 14. Et rien que pour ça, chapeau président. Les poteaux du jour, vous les connaissez, ils sont tous deux de formidables intervieweurs qui ne lâchent rien évidemment dans les interview Denis Charvet.
Salut Christophe.
Ça va, Denis ?
Impeccable. Écoute, on s'est régalé avec cette équipe de Vannes. On va en parler toute l'émission.
Mais... Ouais. Régalade.
Quel plaisir.
Exactement. Et puis Wilfried Templier qui, lui, en plus, a commenté le match puisqu'il se déroulait à Toulouse.
Ça va, Wilfried ? Salut, les gars. Salut tout le monde.
Voilà, c'était un très beau moment. On va y revenir, évidemment, dans un instant. On va accueillir notre invité. Le stade Ernest Vallon, qui en a connu d'autres, certes, mais samedi après-midi, il a vécu un drôle de moment lorsque ce petit club peuplé d'irréductibles bretons a donc envahi ce haut lieu de rugby français et pris d'assaut le top 14.
C'est parti, entre les Vanté ont donné le coup d'envoi sur les Grenoblois et après un dégagement de Sam Davis qui ouvre à Grenoblois, les Vanté ont récupéré le ballon et attaque dans la moitié de terrain avec Omar Camou qui a percé. Voilà, l'antenne était Vantaise et ils ont concrétisé enfin, j'ai envie de dire, rapide et rappelé, Omar Camou sur un crochet intérieur a été marqué derrière la ligne, le premier essai de ce match, le premier essai Vanté des Bretons, 12e minute, la transformation face au poteau actuellement pour Maxime Lafage et ça fait 7 à 0 pour le RC Vannes face au FC Grenoble. Elle n'était pas facile, pénalité pour les Vannetais que réussit Maxime Lafage. Et donc Vannes mène maintenant 13 à 3, plus 10 pour les Bretons à l'heure de jeu. On y arrive, 60e minute. S'ils sont pragmatiques, s'ils sont sérieux les Bretons, ils sont bien lancés pour l'instant pour aller rejoindre le top 14. Il reste 20 minutes évidemment, mais ils sont en train de prendre le dessus sur Grenoble. C'est terminé. Vannes est un top 14, messieurs. Vannes est un top 14. Voilà. La Bretagne va découvrir le top 14 historique. Ils étaient montés en Pro D2 en 2016 et 8 ans après, ils sont dans l'élite du rugby français. C'est un envahissement de terrain, c'est incroyable. Là, c'est l'organisation, la sécurité a essayé de mettre une corde assez large pour qu'on ait la remise du bouclier, les endroits pour les interviews. Tout le monde est rentré sur le terrain avec les drapeaux bretons. On ne voit plus les joueurs, on ne sait plus où ils sont, ni les Grenoblois d'ailleurs. Les fumigènes bleus et blancs, les drapeaux bretons. C'est incroyable, c'est un spectacle formidable qu'on a ici au stade Ernest Vallon. Victoire de Vannes, 16 à 9. Attention, Vannes est en top 14 l'année prochaine.
Voilà, ambiance de folie, ambiance de fiesta au stade Ernest Vallon. J'imagine que le président de Vannes qui est avec nous. Bonjour Olivier Cloarec.
Oui, bonjour.
Olivier, quand vous entendez ça, ça doit vous filer un peu le frisson, quoi, les poils qui se dressent sur les bras, non?
C'est exactement ça, ouais. C'est juste dingue, c'est juste incroyable, c'est juste impensable, c'est juste impossible. Et très clairement, on a encore du mal à réaliser ce moment historique pour le club, pour la ville, pour tout un territoire, et je crois même pour le rugby français. Mais c'est une vraie fierté, ce qui s'est passé. Et on le disait tout à l'heure, il y a seulement 8 ans qu'on évolue dans ce championnat professionnel de Pro D2. On a fait 4 demi-finales sur ces 8 saisons, mais on n'avait jamais eu cette chance d'aller jouer une finale et de la jouer dans un stade emblématique comme le stade Ernest Vallon, face à un grand nom du rugby, parce que Grenoble est vraiment un grand nom du rugby.
Oui, qui a été champion avec de France, Grenoble, on le rappelle, dans ces grandes années.
Exactement, ouais. et sincèrement, on a eu des émotions qui ont juste été extraordinaires, parce que ce peuple breton qui s'est déplacé, On a joué à guichet fermé dans ce stade. J'ai regardé cette finale l'année dernière entre Oyonnax et Grenoble. Et c'était autour des 10-11 000 personnes, je crois, dans ce stade. Et on avait cette petite crainte et cette interrogation de se dire est-ce que le public breton va... Est-ce que les Bretons vont répondre présent? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout et nous soutenir jusqu'au bout? Parce qu'ils le font à Vannes et ils le font dans ce stade de la Rabine où on joue à guichet fermé chaque soir de match. Et bien, ils se sont déplacés. Et je crois que la première bataille qu'on a gagnée, c'était la bataille du public. Et j'ai envie de leur tirer un grand coup de chapeau parce que c'était juste des images extraordinaires.
Président, le soir même, j'ai vu le match évidemment avec ce cher Vincent Moscato, on était dans la télé, on était très heureux pour vous, alors même si on était neutre évidemment, mais je ne sais pas pourquoi il y a eu une espèce d'élan de sympathie, et puis le soir je suis allé voir le match Stade Français, donc Toulon, au Stade Jean Bouin, il y a un élan de sympathie pour vous, c'est absolument incroyable, est-ce que vous en rendez compte réellement?
On commence à le réaliser, vous savez, c'est... On reste un jeune club et un jeune club professionnel. Et quand on est arrivé dans le monde professionnel il y a 8 ans, on a été considéré un peu comme une anomalie du rugby professionnel. Et beaucoup se sont posé la question de savoir ce que venait faire un club breton dans ce championnat-là. Et on a entendu et on a acquiescé. Et on savait quel projet on voulait mener. On savait que, on a tout un territoire... qui nous accompagne et un vrai beau projet de territoire à construire, une belle histoire à raconter. Pour le coup, on a bouché les oreilles et puis on s'est dit qu'il fallait travailler, et que c'est sur le terrain qu'on arriverait à prouver et à montrer des choses. Et on travaille dur, et je pense dans la plus grande humilité possible. Pour autant, on est ambitieux et j'ai jamais caché ma volonté d'amener ce club au plus haut niveau. Et on construit année après année un vrai projet autour de la formation, autour du développement de nos infrastructures, en fédérant un maximum d'acteurs locaux et territoriaux, que ce soit les collectivités publiques ou les partenaires privés. C'est plus de 500 partenaires privés qui nous accompagnent déjà dans ce projet-là. Et aujourd'hui, on est récompensé de tout ce travail. Et on voit ce capital sympathie année après année qui, je pense, parce que cette ferveur et cet engouement peut-être, et que ce stade de la Rabine, les soirs de match, c'est assez incroyable quand même pour toutes les équipes qui viennent y jouer. Et oui, petit à petit, parce que des résultats au rendez-vous, parce qu'une demi-finale, une deuxième, et une troisième, et une quatrième, et que je crois qu'on a réussi à gagner ce capital sympathie auprès du rugby et de l'ensemble des acteurs du rugby français.
Wilfried, toi qui es Rochelais, est-ce que l'histoire de Vannes te rappelle un peu l'histoire du Stade Rochelais, même s'il y avait peut-être autour de La Rochelle un peu plus de fond, un peu plus de joueurs de rugby au départ, mais ça ressemble quand même un peu, moi je trouve, à l'histoire de La Rochelle, non?
Oui, un peu, même si le club de La Rochelle est arrivé avant dans l'élite, ouais. mais un peu sur la zone de chalandise, on va reparler. Ça va loin en fait. En rugby, Vannes est comme La Rochelle. Je pense qu'il y a un territoire immense pour, alors peut-être pas encore assez développé, évidemment, il y a encore le temps et ça va être la locomotive encore plus. Ça l'était déjà, mais ça va être la locomotive. Mais oui, il y a, on le sent bien. Ça fait un peu identitaire aussi, et il y a les guichets fermés, il y a des choses comme ça. Donc
le stade de la Rabine, ça ressemble un peu à deux. Flandre, c'est un peu le même genre d'ambiance qu'on y retrouve. Denis...
Et puis ça n'a pas l'accent du Sud-Ouest.
Ah ben surtout, t'as pas l'accent du Sud-Ouest.
Le rugby a commencé dans le Nord, n'oubliez pas.
Oui, alors ça a commencé dans le Nord, mais enfin pas vraiment en Bretagne, alors que le rugby est quand même grand breton. Mais oui, mais c'est ça qui est quand même dingue. Il a fallu attendre, Olivier, 2024 pour qu'un club breton devienne professionnel. C'est quand même incroyable, l'implantation du rugby dans le monde et en France. Mais la Bretagne, c'était une terre de foot, c'était une terre de vélo, de marins, mais jamais une terre de rugby.
Au présent, hein.
C'est toujours, évidemment. Ouais. Olivier, vous avez dû quand même défricher un paquet de trucs pour arriver jusque-là. Hein.
Ouais, mais vous avez raison, c'est du foot avant tout, c'est du cyclisme, c'est de la voile, mais c'est aussi du rugby, parce que, alors même si on en parlait très peu, et c'est l'accès du RCV dans le monde professionnel qui a fait qu'on a commencé à être un peu plus médiatisé, mais la Bretagne, c'est plus de 10 000 licenciés quand même, c'est 66 clubs amateurs, Et j'ai aussi une pensée pour eux aujourd'hui parce que on est cet étendard du rugby breton et je sais qu'on est observé, qu'on est regardé et qu'ils sont ces 66 clubs amateurs et l'ensemble de ces licenciés sont derrière nous et j'espère qu'on les fait rêver et qu'on les a fait rêver une nouvelle fois samedi soir et je crois que si on peut amener toute cette médiatisation et cette petite notoriété que le club peut avoir aujourd'hui au service du développement du rugby du rugby en général et sur l'ensemble des territoires, mais plus particulièrement du rugby breton, parce qu'on est fiers de ces clubs qui nous accompagnent. Et si on peut faire ça et faire en sorte que demain, ça soit 15 000, puis 20 000, puis 30 000 licenciés en Bretagne, eh ben, c'est aussi ça notre rôle qu'on doit tenir aujourd'hui.
Denis, Wilfried, c'est évidemment capital pour l'avenir du rugby en France, justement, de défricher d'autres territoires et que des clubs bretons ou des clubs du nord ou de l'est de la France, du nord-est de la France, viennent changer l'image qu'on a du rugby, qui est considéré par beaucoup comme un sport régional. Ouais.
Même des collègues à moi qui me disent, toi et ton sport régional.
On nous le dit assez à la rédaction. Hein.
Ça a quand même évolué, oui. Messieurs, on le voit à la télé,
Ça a évolué, mais enfin, tu regardes quand même l'ensemble. Oui. Enfin, la majorité des clubs sont quand même issus de.
Oui, du sud-ouest, région, oui, bien sûr. Mais,
tu regardes. Du sud en général.
Oui, mais regarde l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est un territoire immense au niveau des licenciés. C'est quand même le nord, l'Île-de-France.
Oui, mais l'Île-de-France. Le Racing.
Le Racing, mais bon.
C'est là que le rugby.
Il y a beaucoup de licenciés en Île-de-France.
On sait qu'à Lille, bon, il y a eu un projet, un très beau projet qui n'a pas été abouti, malheureusement. Mais ils avaient beaucoup d'ambition et ça aurait été bien que le rugby s'impose à Lille. Mmh. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais Vannes va être un projecteur énorme sur le rugby français. Je pense que
la Ligue nationale de rugby est extrêmement. Alors, c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas prendre parti. Oui. C'est vrai que les Grenoblois ont un peu grogné, sentaient qu'il y avait une envie de découvrir un territoire. Et voilà, si on se met à leur place, c'est normal. Mais si on se met à la place du rugby en général, c'est aussi finalement génial d'aller découvrir la Bretagne, d'amener le rugby professionnel qui est déjà là, mais d'élite en Bretagne. On parlait de locomotive, ça va être un boost vraiment terrible.
Président, il y a ce vent de fraîcheur, quoi. Je ne sais pas d'où ça vient, si c'est votre identité.
C'est la galette saucisse.
C'était votre identité. Non, mais il y a sûrement un problème. Il y a quand même le côté identitaire. Mais je veux dire, il y a quand même, je ne sais pas, un vent de fraîcheur incroyable avec cette équipe de Vannes. Donc je pense que ça fait partie de votre culture aujourd'hui.
Ouais, je crois qu'on est une région véritablement avec une identité extrêmement forte. Le Pays Basque là, la Corse là, je pense que l'Est.
Même sans le rugby à la base.
Et cette identité, elle est extrêmement forte et on arrive à fédérer autour de ça parce qu'on construit un projet autour de ça, autour de cette culture bretonne, autour de ces valeurs bretonnes, autour de cette fierté bretonne et on essaye. Chaque jour, d'y mettre des marqueurs forts de ce projet de territoire. Avec le Brogos, par exemple, qui est l'hymne breton chaque soir de match.
C'est le même hymne que le Pays de Galles, c'est ça?
C'est ça. C'est très ressemblant. C'est très ressemblant, ouais. En tous les cas. Mais vous avez raison, le rugby, c'est un vent de fraîcheur parce que la Bretagne. Mais vous parliez de Lille tout à l'heure. Lille, il y a 8 ou 9 ans ou 10 ans, on les jouait en Fédéral 1 et c'était une équipe qui était à notre niveau et qui avait de fortes ambitions pour évoluer vers le plus haut niveau aussi. Mm-hmm. Maintenant, j'oublie pas des clubs aujourd'hui qui s'installent aussi durablement, comme Angoulême, comme Nevers.
Comme Aix-en-Provence aussi. Hein,
exactement.
Terminé en tête de la saison régulière, mais qui n'accède pas au top.
Exactement. Et je crois que ça fait vraiment du bien. Je pense
qu'on va aborder le problème économique. Donc,
alors, on va en parler, évidemment. On va pas.
Non, mais c'est important de.
Restons sur l'identité.
Évidemment.
D'abord.
Restons d'abord sur l'identité et sur la ferveur que ça suscite.
Il n'a pas lu le conducteur, Denis.
Non. Monsieur le Président, je ne lis jamais les conducteurs.
Non.
Il m'envoie des conducteurs de 4 pages. 5 pages,
c'est Denis part dans tous les sens.
Et Denis part dans tous les sens, évidemment. C'est ça, les Toulousains, vous voyez. La balle à l'aile, la vie est belle.
C'est le problème sur le terrain pour l'adversaire aussi.
Reprends
mon conducteur pour évoquer la ferveur bretonne. On en parlait, on va écouter dans un instant Maxime Lafage donc sur le public. Mais c'est vrai que là aussi, ça représente l'identité bretonne. Moi, pour suivre le Tour de France depuis très longtemps, quand on est en Bretagne, il y a un engouement qu'on retrouve nulle part ailleurs. Les matchs de foot à Rennes, à Lorient, à Guingamp, c'est pareil. À Brest, n'en parlons pas. Et donc, là, il y a eu cette ambiance incroyable à Ernest Vallon. On va écouter le demi de mêlée du RCV, Maxime Lafage, qui était ravi, évidemment, d'offrir ça à son public. Et que le public, justement, comme le disait Olivier Clorac tout à l'heure, ait répondu présent. On l'écoute.
On savait qu'il allait avoir du monde de Bretagne, mais avoir autant de monde, autant de ferveur, franchement, je trouve ça juste impressionnant. Les mecs sont partis à 4h du matin en bus, franchement, c'est exceptionnel. Et je pense que cette finale, elle s'est jouée peut-être là aussi. On doit leur rendre un grand coup de chapeau, ils nous ont poussé du début à la fin. C'est incroyable ce qu'ils nous proposent, ce qu'ils nous amènent. Cette saison, elle a été construite, mais elle a été construite avec le public, avec le peuple breton. Et c'est une saison incroyable de A à Z, avec des hauts, des bas. Et on connaît voilà, maintenant cette fin qui est exceptionnelle et qui récompense tout un peuple.
Et la... l'ouverture, hein, Maxime Lafage.
Demi-ouverture, je me suis trompé. La fête qui s'est poursuivie dimanche, Olivier, lors du retour à Vannes, sacrée fiesta. Alors, il ne faut pas dire fiesta en breton, il faut dire fest-noz, c'est ça, hein, je crois. Il va falloir aussi qu'on s'habitue à connaître les spécificités bretonnes et le vocabulaire, Olivier. Hein, et vous le disiez tout à l'heure, le drapeau breton va arriver sur les terrains de top 14, l'hymne breton, tout ça. Voilà,
vous nous envahissez, quoi.
Vous allez prendre.
Est-ce qu'il a pu lâcher un petit peu les choses, le président? Est-ce qu'il nous donne un peu les coulisses là? Parce que voilà, faut penser à l'après et tout. Mais est-ce que le président, vous avez pu savourer ou lâcher un peu? Je vous dis pas vous mettre sur le toit. Peut-être que c'est plus notre âge, nos âges. Je vais me mêler avec vous, quoi. Mais est-ce que vous avez pu vraiment? ouais, comme moi, j'attendais.
Mais non, je l'ai dit tout à l'heure.
Non.
Extrêmement de mal à réaliser ce qui nous arrive. J'ai reçu des centaines et des centaines et des centaines de messages et auquel j'ai pas encore répondu et très honnêtement on a tellement de mal à y croire. Pourtant on construit ce projet-là depuis toutes ces années pour en être là aujourd'hui et je crois que le jour où ça arrive et ben vous réalisez pas vraiment. Alors très vite il va falloir quand même remettre les pieds sur terre et puis la tête bien sur les épaules parce que il y a une saison à préparer et on sait que la préparation est extrêmement importante et notamment là un recrutement à réaliser donc voilà,
vous n'avez pas fait la fermeture des boîtes alors, de Vannes?
On en a profité un peu, mais les joueurs sans doute un peu plus que les dirigeants.
Ouais, voilà, vous avez laissé faire les joueurs.
Alors, la Bretagne aura donc un club dans l'élite la saison prochaine, c'est magnifique. Mais maintenant, évidemment, il faut penser à la suite, parce que là, évidemment, il faut construire, Olivier. Alors, vous construisez depuis des années, vous le disiez, il y a plein de choses qui ont déjà été faites au niveau de ce club, mais maintenant, arriver en top 14, c'est une autre marche, un peu périlleux, je le disais tout à l'heure en introduction, c'est maintenant que les emmerdes commencent finalement.
Oui, la marche est pareille. Vous savez, je regarde aussi ce championnat de top 14 tous les week-ends et c'est vrai que sur le plan sportif, on a l'impression d'être tellement loin de ces équipes et en même temps, quand on est monté de fédéral à Pro D2, on nous avait promis l'enfer et tout le monde nous avait expliqué qu'on allait vite redescendre parce que il n'y avait pas de national à l'époque, hein, on venait bien de fédéral. Et la marche paraissait extrêmement haute et on était sur une structure associative, vraiment pas dans le monde professionnel, donc on avait vraiment tout à construire. Je crois qu'aujourd'hui, la marche, elle paraît sur le plan sportif extrêmement importante et on le voit année après année avec ces équipes qui montent et qui rencontrent des difficultés pour exister, et à l'image d'Oyonnax une nouvelle fois cette saison, et qui pour autant ne fait pas une mauvaise saison et qui a cette expérience déjà de ce très haut niveau. Malgré tout, c'est difficile pour eux parce qu'un budget pas suffisamment important. Et non, je crois qu'on a structuré depuis 8 ans, on a développé nos infrastructures, on a un centre d'entraînement qui répond aux standards d'un club qui se dit ambitieux. Ben, il va falloir pas se rater dans notre recrutement et aller chercher 6-7 joueurs qui vont être essentiels pour essayer d'exister dans ce championnat. Ouais.
Mais vous l'avez anticipé, président, ou pas? Est-ce que ça peut s'anticiper déjà?
Oui, mais je pense que déjà vous avez flairé
des contacts
partout, non?
Mais c'est compliqué d'anticiper les choses. Vous savez comment est construite cette accession et
ce qui n'est pas normal,
classement.
Ce qui est pas normal.
Mais c'est compliqué. Après, alors ces phases finales, elles sont juste fabuleuses parce que regardez toute cette ferveur. Je crois que du quart de finale à la demi-finale à la finale, c'est des guichets fermés en permanence. C'est la fête du rugby. C'est des moments incroyables. Mais quand vous arrivez le 8 juin, que vous gagnez une finale et qu'il vous reste 15 jours ou 3 semaines pour préparer une équipe, construire un projet sportif, recruter des joueurs pour démarrer une saison autour du avant la fin du mois d'août, c'est extrêmement compliqué, évidemment que c'est extrêmement compliqué.
Mais vous auriez préféré l'ancienne formule, même si ça ne vous aurait pas récompensé cette année, puisque c'est Aix-en-Provence qui est terminé premier.
Non,
mais en tant que président qui vise la montée, c'est vrai que nous, ça, on en a parlé il n'y a pas longtemps, ça nous semblait
la logique,
pouvoir
on va dire.
Travailler plus en amont, être voilà, récompensé d'une régularité. Quel est votre avis, vous, là-dessus?
Mais mon avis, il est clair. C'est qu'on l'a vu la saison dernière, où Oyonnax a survolé la saison et pour autant, on n'a pas pu se préparer comme il faut. Et regardez, cette saison... ils galèrent et ils vont redescendre. Et alors qu'ils ont dominé le championnat la saison dernière, mais sauf qu'il y a ces phases finales à disputer et que c'est pas parce que vous êtes premier de la saison régulière que vous montez. Donc, et on l'a vu cette année avec Provence qui finit premier et qui méritait cette première place tout au long de la saison sur cette régularité qu'ils ont amenée. Et puis ils sont éliminés dès la demi-finale, dès leur demi-finale chez eux. Donc,
le problème, c'est
Oyonnax
que
a survolé la saison dernière, Perpignan avant ou Bayonne. Oui, je trouve que.
Mais votre succès pendant les phases finales, mais va pas faire changer la donne, malheureusement.
Et non, mais c'est comme il le disait, c'est une formidable fête du rugby. C'est le rugby français passe par ces phases finales. C'est en
incontournable. Oui, mais c'est pas un cadeau. Au club de
non, c'est pas du tout un cadeau. C'est fait en dépit du bon sens, en dépit de l'économie sportive, mais voilà, c'est aussi ça qui nous régale et qui régale les spectateurs.
Ouais, on s'est régalé samedi, oui.
Et comme on va se régaler à partir de la semaine prochaine avec les phases finales du top 14, alors qu'il devrait y avoir un champion depuis longtemps.
C'est pas le foot.
Ah non, on le sait, c'est pas le foot, c'est ça la spécificité du rugby. D'ailleurs, Olivier, je crois que vous êtes au départ un footeux, vous, c'est ça. Et je crois que j'ai lu que vous aimiez pas vraiment le rugby au départ. Vous connaissiez pas le truc, quoi.
Peut-être pas vous raconter toute mon histoire, mais moi je suis originaire, je suis breton, originaire de Gourin, qui est une petite commune en plein centre Bretagne. Et depuis tout petit, je savais même pas que le rugby existait.
Que le ballon pouvait être ovale, quoi.
Mais exactement, et j'ai fait du foot parce qu'il n'y avait pas de club de rugby près de chez moi et que j'ai fait du foot à peu près comme tous les gamins de mon âge et que j'en ai fait une vingtaine d'années. Et effectivement, je suis arrivé au club il y a 9 ans maintenant. Cette dernière année de fédéral avant notre montée en Pro D2.
En tant que partenaire, c'est ça?
Oui,
à la base,
en tant que partenaire, ouais. Et avant que j'y arrive, quand j'allumais ma télé, que je voyais un match de rugby, je prenais ma zapette et je changeais de chaîne. Parce que,
mais justement, alors, président, mais qu'est-ce qui a changé votre regard? Parce que là, on vous sent passionné quand même.
J'ai eu un vrai coup de cœur, c'est-à-dire que je suis devenu partenaire cette année de fédéral et je suis devenu, je crois, le plus gros partenaire du club à ce moment-là. Alors, on n'était pas sur des montants astronomiques parce qu'on ne voulait qu'en fédéral, mais j'ai mis un peu de sous dans ce club. Et une fois, après avoir mis ces sous-là, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir un peu ce qui se passe à travers le rugby à Vannes. J'avais jamais vu un match, j'avais même pas vu le RCV jouer à Vannes une seule fois. Et là, je me suis dit qu'il était temps d'aller voir ce qui se passe quand même. Et puis j'ai fait ce premier match avec ma femme et je suis rentré dans ce stade. On était en fédéral 1. 4 500 personnes en moyenne, les supporters qui nous suivaient déjà. Je crois qu'on était la plus grosse influence de Fédéral 1 à l'époque. Et il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas ce qui m'est tombé sur la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai eu un véritable coup de cœur et je suis tombé amoureux.
Ça s'appelle un virus, président.
Exactement. Mais avec cet engouement, cette ferveur, j'avais des jeunes gamins, des personnes âgées, des autant de femmes que d'hommes. Enfin, c'était juste une ferveur et un engouement incroyable.
Vous qui venez du football, justement, ce qui est intéressant, le regard par rapport à rugby.
Il vient d'expliquer, hein. Là, Denis,
oui, non, fait, mais je veux dire, ça a été un vrai choc, en fait. C'est un vrai choc, quand même, culturel.
Oui, c'est un vrai choc. Alors, je vais pas parler du football ou dénigrer le football parce que j'aime le foot et que ces clubs bretons qui évoluent au plus haut niveau dans ces championnats professionnels aussi de foot. Arrive à créer des choses assez incroyables autour de cette identité aussi qu'ils peuvent porter. Mais ce que nous disent nos supporters, c'est qu'ils aiment venir au stade de la Rabine, ils aiment venir avec leurs enfants, ils aiment partager, ils aiment chanter avec l'équipe adverse et qu'il se passe ça aujourd'hui dans le rugby et qu'on a du mal forcément à retrouver dans le football.
Alors, ce succès, ce n'est évidemment pas le seul fait du président. Vous êtes entouré d'une sacrée bande de foot rugby, dont certains étaient même présents au club avant votre arrivée, Olivier, à commencer par votre entraîneur, Jean-Noël Spitzer, en charge de l'équipe depuis 2005. C'est quand même incroyable, ça fait 19 ans qu'il est... Là aussi, c'est une anomalie dans le rugby d'aujourd'hui. Avant cela, il a été joueur et capitaine du club. C'est un peu la poutre maîtresse du RCV, président. J'imagine que vous êtes beaucoup appuyé sur lui pour développer le club aussi, hein.
Noël Spitzer est devenu mon ami plus que mon manager c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir ce club, qui m'a fait découvrir le rugby et voilà, avec qui je partage énormément de choses. On me dit souvent, et on a passé des moments difficiles sur ces premières 8 années dans le monde professionnel, et on a vécu des moments compliqués et où Jean-Noël Spitzer s'est posé des questions et où on m'a expliqué, moi, qu'il fallait s'en séparer parce que c'est un peu le lot de tous les entraîneurs qui enchaînent 4, 5, 6, 7 défaites Et que moi, c'est tout l'inverse. Et je suis convaincu que quand on construit dans la continuité, on en sort plus fort. Et que quand on a des épreuves à passer, des étapes difficiles, des moments de doute, et qu'on touche parfois le fond, voire le très fond, et ben c'est en restant soudés, en se tenant la main et en cherchant les solutions ensemble qu'on arrive à passer ces moments-là. Et plus on arrive à passer ces moments-là, et plus les moments suivants difficiles, et ben on les passe plus facilement. Et je suis extrêmement fier d'avoir passé ces 8 années avec lui. Et je crois qu'il avait pour mission d'amener ce club au plus haut niveau. Et il l'a fait. Et je suis véritablement heureux pour lui.
Voilà, Jean-Noël Spitzer, qui est un Breton pur beurre salé. Hein, après le match à Toulouse, il disait « Je n'ai qu'une hâte, passer la frontière et rentrer en Bretagne. Ouais. » Ça, c'est génial.
Ouais. Passer la frontière, il nous a dit. Ouais.
Une frontière qu'il va devoir franchir à plusieurs reprises donc la saison prochaine. Car désormais, donc, c'est le top 14. Un autre monde qu'il va falloir découvrir. On écoute d'ailleurs l'entraîneur Vanoté à ce sujet. Bon, il voulait un peu qu'on lui laisse quelques heures. Mais après, voilà, les heures sont terminées. On écoute Jean-Noël Spitzer.
Bon, laisse-nous 48 heures déjà pour voilà, savourer. On sait très bien qu'on met les pieds dans un environnement dans lequel on ne maîtrise pas grand-chose. Mais pour autant, on n'est pas non plus inquiet. C'est une aventure qu'on a envie de vivre. Je pense qu'elle va tous nous stimuler au sein du club. Bon, les joueurs, le staff. Aujourd'hui, on est quand même très professionnel dans notre façon d'aborder le rugby, notre cadre de travail, dans nos structures aussi d'entraînement. Donc, on n'a pas ce travail-là à faire. Ce travail matériel. Donc le travail va être davantage effectivement de peaufiner un peu l'effectif. Il y aura certainement un peu plus de recrutement que prévu. Et puis on va se lancer dans la pré-saison, dans la bataille, mais avec une énergie terrible pour beaucoup. Ça va être la première expérience en top 14. C'est le plus grand championnat du monde. Les meilleurs joueurs du monde y sont. Si à part de l'excitation, il n'y a pas d'autres sentiments.
C'est vrai que d'entrée, on lui a dit, Christophe, c'est ouais. Après le match. Moi, je lui ai dit, alors, c'est le plus beau, le plus dur qui arrive. Il a dit, ouais, laisse-nous un peu.
ouais.
Attends un peu.
Ils ont merdeur de journaliste qui vient. Alors que t'es dans la joie totale, là, tu commences à lui dire, bon, alors, ça va être dur. Bon, c'est... Bah, alors, Olivier, maintenant, ça fait presque 48 heures, donc le délai est passé. Jean-Noël, on l'a bien compris, va s'occuper plutôt du recrutement. Mais pour recruter, il faut avoir des sous. Et ça, c'est votre boulot, ça, d'aller chercher à renforcer le budget. Je crois qu'il était de 13 millions cette saison. Il faut passer à combien pour espérer arriver à jouer un rôle dans ce top 14, à votre avis, la saison prochaine?
Si je vais chercher mes 45 millions comme le Stade Toulousain,
oui,
je pense qu'on peut exister.
Oui, c'est sûr. Ouais. Non, mais dans les choses réalistes, je veux dire.
Mais oui, c'est mon travail. C'est mon travail à moi et à l'ensemble des dirigeants qui m'accompagnent et à nos équipes aussi et à l'ensemble de nos salariés qui font un travail remarquable et un travail de fou pour nous accompagner dans ce projet aussi. Vous savez, quand l'année où on monte en Pro D2, le club, c'était 1,7 million, 1,8 million de budget et 80 partenaires qui accompagnaient ce club. C'était seulement il y a 8 ans. Voilà, 8 ans après, on est à 13 millions de budget et 520 ou 530 partenaires privés qui nous accompagnent. Alors oui, on a parlé de La Rochelle tout à l'heure et oui, on regarde beaucoup comment La Rochelle a construit aussi cette formidable aventure.
Avec beaucoup de petits partenaires, pareil. Ouais.
Exactement, autour d'une économie forte autour d'eux et je crois qu'ils sont à 800 partenaires aujourd'hui à les accompagner. Et ben, je crois que le territoire breton, il est tout aussi important que leur territoire à eux, qu'on a une économie aussi importante, forte. Et que notre travail et mon travail plus particulièrement, c'est de continuer à fédérer cette économie, de continuer à faire grandir ce nombre de partenaires qui est de 500 aujourd'hui, qui passera à 600 demain, puis 700, puis 800, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera et qu'on arrivera à construire un budget qui nous permettra de penser pouvoir exister dans ce championnat-là. Déjà, pour autant, dès la saison prochaine, les semaines qui arrivent, parce que ça va passer très vite tout ça, je pense qu'on va être en mesure de construire un budget qui va avoisiner les 20 millions d'euros. Alors 20 millions d'euros, on va me dire que c'est beaucoup par rapport à notre reste d'aujourd'hui, et en même temps c'est très peu pour se donner les moyens d'exister dans ce championnat. Et encore une fois, on le voit avec Oyonnax qui a 18 ou 19 millions cette année et qui a du mal à rivaliser sur la longueur de toute une saison.
Déjà, les droits télé vous rapportent combien? Vous allez passer de 13 millions à combien?
On va être... Mais de les droits TV, c'est un peu plus de 2 millions d'euros ouais. Aujourd'hui en Pro D2. Et on devrait être aux alentours des 4,5 millions la saison prochaine.
D'accord.
Donc voilà, j'ai quelques très bons copains qui sont présidents de clubs de foot professionnels pas très loin de chez moi. Et quand on voit les droits TV et comment ils construisent leur budget, les droits TV, pour eux, c'est 60-70%.
Oui,
monter jusqu'à 70% de leur budget. Hein. Ouais. Nous, ça n'a rien à voir. Donc évidemment, 4,5 millions, on va les prendre et on est très heureux de les avoir. Mais 4,5 millions sur, très honnêtement, faudrait être capable de construire un budget autour de 25 millions pour essayer d'exister.
Mais c'est des 4 millions sûrs, j'ai envie de dire, parce que les 60 millions de télé au foot en ce moment,
oui, il ne sait pas comment recruter.
Donc, c'est vrai que l'économie n'est pas la même, mais la sûreté, enfin, c'est solide au rugby. Quoi. Mais est-ce que vous avez un partenaire, enfin, vous n'avez peut-être pas pouvoir tout nous dire, mais il y a des partenaires majeurs ou un contact avec un gros partenaire. Enfin, vous en avez.
Vous avez déjà un partenaire qui a une équipe cycliste aussi, qui est vraiment toujours sur le coup dans les gros événements sportifs en Bretagne ou les gros clubs.
Bah, vous pouvez le citer si vous voulez et puis lui mettre un peu de pression parce que c'est un partenaire qui qu'on espère va nous accompagner énormément. Je crois que c'est pas notre plus gros partenaire aujourd'hui, mais c'est un partenaire qui nous accompagne depuis quelques temps maintenant et qui connaît parfaitement le rugby, oui, mais le sport professionnel. Et parce qu'il est présent dans la voile, parce qu'il est présent dans le cyclisme, mais qu'il est aussi présent dans le rugby, notamment dans le sud-ouest. C'est un partenaire qui sait ce que c'est le sport professionnel et toute l'exigence qu'il faut y amener et aussi tous les moyens financiers qu'il faut y amener. Donc, oui, on compte sur des partenaires comme eux.
Mais bon, votre ambition,
votre
ambition, président, qui est de monter à 25 millions, vous pensez que c'est réaliste ?
Notre ambition, c'est de ne pas dépenser plus d'argent que ce qu'on a. Voilà. Et c'est comme ça qu'on construit depuis toujours. Et on fait avec nos moyens. Et quand on a moins de moyens que d'autres, on essaye d'aller trouver des choses à côté qui nous permettent de rivaliser.
Non, mais la réalité, c'est qu'on existe quand on a des budgets entre 25 et 30 millions. C'est aussi ça,
mais
la réalité.
Donc,
malheureusement, je ne dis pas ça parce qu'il faut le dire, mais c'est
On a bien compris. 20 millions, c'est la tranche basse pour essayer d'exister. On a vu avec Oyonnax, c'est compliqué. Mmh. 25, ça commence à devenir sérieux, mais bon, il faut les trouver. Puis passer de 13 à 25 comme ça en quelques semaines, c'est pas évident. Alors, il y a les droits télé, on l'a vu.
Il va prendre sa mallette, il n'y a pas d'été pour le président.
Ah non, là, je pense que les plages bretonnes ne vont pas le voir. On a vu les droits télé, on a vu les partenaires. Il y a aussi le stade, évidemment, la billetterie, c'est toujours important. Vous le disiez, le stade de la Rabine, c'est un drôle d'endroit, évidemment, où vont donc débarquer toutes les stars, les Antoine Dupont, les Penaud, et le Garec aussi, qui va revenir. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Le stade de la Rabine, c'est combien ? C'est un peu moins de 12 000 places, je crois, Olivier. Il faudrait l'agrandir, mais là aussi, ça coûte très cher.
Stade de la Rabine, il est magique parce qu'il est sur le port de Vannes, en plein centre-ville, et c'est vraiment un petit stade à l'anglaise, là, complètement fermé, et dans lequel il résonne une ferveur et un engouement incroyable. Et que ce soit nos joueurs ou les joueurs des équipes adverses, sont tous unanimes là-dessus. Il se passe quelque chose dans ce stade.
Ah, vous êtes largement devant en influence, hein, cette saison.
On a souhaité le conserver là parce qu'on a eu des vraies discussions avec le maire notamment, qui est propriétaire, et la ville de Vannes, qui est propriétaire de ce stade. Et effectivement, on s'est posé la question de savoir comment faire pour le faire évoluer. Quand on est arrivé en Pro D2, je crois que c'était autour des 8000 places, ce stade de la Rabine. Donc tous les ans, on essaye de le faire évoluer, on essaye d'aller chercher de la capacité supplémentaire et de la place assise pour faire venir toujours plus de supporters, mais aussi du réceptif et développer du réceptif pour nos partenaires, parce que c'est aussi une grosse partie de notre économie, le réceptif d'avant-match ou d'après-match. Pour la petite anecdote, à chaque soir de match, c'est 1800 repas qui sont servis au stade de la Rabine. Et dans le Morbihan, personne ne fait ça autour de nous. Donc cette ferveur, elle existe. Et notre travail, c'est de continuer à développer ce stade de la Rabine, d'aller chercher une capacité qui avoisinera les 14 500 places à peu près, et d'essayer de créer à peu près 3 500 places de réceptifs dans ce stade. Mmh. Et on sera au maximum du maximum qu'on puisse faire sur ce stade.
Je lisais une petite phrase émanant de quelqu'un qui est proche de vous, alors je ne sais pas, je connais pas son identité, qui disait que la Rabine, c'était à la fois la force et la faiblesse du RCV. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Olivier ?
C'est peut-être mon directeur général.
Ah, c'est peut-être le directeur général, oui.
Qui a dit ça. Et oui, c'est la force du RCV, parce que, encore une fois... c'est notre poumon économique, et c'est dans ce stade qu'on construit l'économie du club. Vous connaissez l'histoire des clubs professionnels, et à la tête de ces clubs-là, on a parfois des présidents mécènes qui apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour construire leur budget. Moi, je suis épicier, je vends des boîtes de conserve, j'ai pas beaucoup d'argent, donc il faut trouver d'autres solutions.
Un gros épicier, quand même.
Il faut fédérer le au maximum autour de nous, et Et ce stade, oui, il est magique parce que, encore une fois, il est en plein cœur de ville, près du port. Et ça, c'est assez incroyable. Et je crois qu'à part nous et Toulon, peu de clubs peuvent se vanter d'avoir un stade en plein centre-ville comme ça. Et en même temps, y a du monde autour, il y a des habitations, c'est extrêmement compliqué et à chaque fois difficile de le faire grandir. Voilà, pour autant, on y arrive parce que de 8000, on est passé à près de 12000 places aujourd'hui.
Avec combien d'abonnés, président ?
On était, on sait que quand on ouvre la billetterie, en fait, chaque soir de match, la moitié du stade est déjà remplie. Voilà.
D'accord.
Bon. Ouais, un peu comme donc ça fait près de 6000 abonnés.
Je pense quand même que vous risquez de monter à 8000 ou 10000. Hein.
Mais je pense que...
Vous voulez mettre un plafond ou...
Pour qu'il y ait plus de monde qui vienne de l'extérieur,
C'est une vraie question aussi, ça.
On se pose cette question parce que c'est 13 guichets fermés consécutifs qu'on a réalisés. Avec la réception d'équipes qui sont pas tout à fait les mêmes que celles qu'on va recevoir demain.
Aujourd'hui, quand vous allez annoncer RC Vannes contre Stade Toulousain ou contre Stade Rochelet, tout le monde, toute la région va se précipiter. Donc effectivement,
ou alors ils vont croire qu'on leur fait une blague et que c'est pas vrai. Mais on va jouer à guichet fermé toute la saison prochaine. Ça, on en est convaincu. Et les 13 guichets fermés qu'on a fait ont amené un peu de frustration déjà auprès de nos supporters qui ont des vraies difficultés à trouver des places pour chaque soir de match. Et donc, avec toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées l'année dernière, on peut penser que pour ceux qui n'étaient pas encore abonnés, ils pourraient se dire on va peut-être prendre un abonnement pour être certain d'assister à toutes ces rencontres la saison prochaine. Ouais. À quelle hauteur on mettra la jauge, je ne sais pas encore.
Est-ce qu'il y a la possibilité aussi, parce qu'on l'a vu avec d'autres clubs qui ont des
délocalisés.
Stades, délocalisés, le Horizon Park, c'est à un peu plus de 100 km de Vannes, c'est combien, 30 000 places, est-ce que là, ça pourrait vous intéresser, notamment pour accueillir les grosses, voilà. Pour accueillir le Stade Toulousain, le RC Toulon,
tout ça. Ça
aurait de la gueule quand même,
champion d'Europe.
Le Horizon Park, vous le connaissez, je pense. Il y a eu quelques matchs de demi-finale, je crois, il y a quelques années.
Exactement.
Je crois que c'est l'année où on monte, c'est-à-dire il y a 8 ans.
C'est 2016, c'est le titre du Racing.
Exactement. Oui, parce que on avait fait une émission, Les Grandes Gueules du Sport, en direct de Rennes, et je crois qu'on vous avait eu au téléphone à l'époque dans l'émission.
Possible. C'est possible.
Donc voilà, vous veniez de monter en
premier. Donc c'est possible, des matchs à Rennes.
Mais c'est possible, oui, on commence à y réfléchir. Et en même temps, ce stade de la Rabine, c'est...
Il faut appeler M. Pinault aussi.
Oui, mais c'est le moyen de satisfaire les supporters aussi.
Il y a beaucoup dans ce stade, c'est des partenaires qui sont présents.
Ouais.
Exactement, et c'est aussi pour eux qu'on est là, et c'est aussi grâce à eux qu'on est là. Donc, de délocaliser, oui, c'est une bonne idée, mais à condition de pouvoir amener tout le monde avec nous et l'ensemble de nos abonnés, l'ensemble de nos supporters qui nous soutiennent depuis toujours. Donc, maintenant, quand vous avez un stade à 30 000 places à une heure de chez vous et que vous vous apprêtez à recevoir des équipes comme le Stade Toulousain, La Rochelle ou d'autres, forcément que il va falloir réfléchir à ça et peut-être à délocaliser deux à trois rencontres sur l'année. Maintenant, encore faut-il avoir des disponibilités. C'est pas si simple à mettre en place non plus.
Exactement. Alors, il va falloir aussi recruter. Combien de renforts vous espérez faire venir au RCV cette saison ? Je crois qu'il y a un bon petit demi-mêlée au Racing qui porte un nom breton. Le Garec, je crois. Nolan, qui a été formé chez vous, Olivier. Il était présent d'ailleurs à Ernest Vallon samedi. Son papa, je crois, fait partie de votre garde rapprochée. Est-ce que faire revenir un tel joueur, c'est du domaine du réalisable ou c'est complètement utopique ?
C'est du domaine de l'impossible aujourd'hui. Vous connaissez Nolan Le Garec. Il est en pleine progression, en pleine transformation. Il grandit jour après jour et pour moi, devient peut-être le numéro 2 ou 3 déjà au poste en France. Donc, je crois qu'on attend beaucoup, beaucoup de Nolan et que l'équipe de France attend aussi beaucoup de lui et que je pense que c'est un peu tôt pour croire que Nolan est capable de revenir à Vannes demain ou après-demain. Mais je pense aussi à Arthur Coville qui évolue à Provence, qui était au Stade Français, qui est un joueur de chez nous, qui a été formé aussi ici. Mais vous savez, au poste de 9, et vous avez regardé le match samedi soir, j'imagine, mais on a Michael Ruru déjà à ce poste-là qui a fait un incroyable match samedi soir et qui est un joueur de niveau de top 14 et sur lequel on compte pleinement. Puis vous avez vu Jules Le Bail aussi, qui fait sa rentrée, qui fait une très bonne rentrée. Et puis avec toute l'expérience qu'il a, puisqu'il est deux fois champion d'Europe avec, avec La Rochelle. Et puis derrière, on a un jeune qui s'appelle Alex Gouault, qui est, voilà, qui est un jeune joueur formé au club. Et je crois qu'à ce poste-là, on a les trois joueurs qu'il faut pour démarrer la saison prochaine.
Olivier, vous le savez, vous en êtes conscient, on en a parlé, le top 14 c'est le meilleur championnat de rugby au monde, il est très difficile d'y rester quand on vient de Pro D2, souvent les clubs qui accèdent pour la première fois redescendent immédiatement, est-ce que ce serait un coup d'arrêt si à la fin de la saison vous étiez obligé de redescendre à l'échelon inférieur, ou est-ce que comme d'autres, vous allez essayer comme ça, il faudra plusieurs fois pour arriver à s'installer définitivement dans le top 14? On vous souhaite d'y arriver dès le premier coup, mais on sait que c'est très compliqué quand même.
C'était très compliqué de passer de la fédérale à la Pro D2 et on a réussi à le faire parce qu'on y a cru et que même si c'est compliqué, il faut travailler dur. Alors là, chaque chose en son temps et les premières années dans le monde professionnel, notre seul objectif était de s'y maintenir, voilà, et d'y rester avec pas d'autre ambition à l'époque que de se maintenir. Et puis après, il y a eu de nouveaux projets, de s'installer durablement dans ce championnat et d'exister dans ce milieu de tableau de championnat et sans avoir la crainte de redescendre à chaque match. Et puis après, il y a eu cet objectif de disputer des phases finales. Et puis quand vous en faites une demi-finale, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, vous dites qu'à un moment, il faut franchir un nouveau cap. Et les demi-finales, c'est bien, mais ça ne fait pas des champions. Donc c'était important pour nous de passer cette étape supplémentaire et cette marche supplémentaire et d'aller jouer une finale. Et puis quand on joue une finale, c'est pour la gagner, comme tout le monde. Et alors, première finale et on la gagne, c'est juste incroyable. Mais si le club veut continuer son encore une fois, son évolution, sa construction, son développement, il faut aller goûter à ce championnat de top 14, aller le découvrir, parce que Jean-Noël l'a dit tout à l'heure, c'est une vraie découverte pour presque nous tous aujourd'hui au sein du club, à part quelques joueurs qui ont connu ce niveau-là. Pas grand monde autour de nous, donc il faut aller le découvrir, il faut aller le sentir, il faut aller voir ce qui s'y passe. Et puis si on redescend, le club est tellement solide et construit sur des bases tellement solides que ça sera pas un coup d'arrêt, ça sera juste une expérience qu'on sera allé chercher et qui va nous servir pour reconstruire demain et après-demain, pour y retourner et s'y installer.
La Rochelle l'a fait en 2010-2011. Hein. Ils sont montés, ils sont redescendus et revenus en 2014. Après.
Donc si La Rochelle l'a fait, on se dit qu'on peut aussi le faire.
C'est marrant, il y a quand même des accointances. On en parlait en début d'émission entre La Rochelle et Van.
Attends,
Van
n'est pas encore descendu l'année prochaine.
C'est l'air de l'Atlantique peut-être qui fait ça. Merci Olivier Cloarec en tous les cas d'être venu au micro d'Entre les Poteaux. On vous souhaite évidemment un bon été, bien chargé. Hein. Je pense que vous n'allez pas beaucoup partir en vacances, on le disait. Et puis rendez-vous.
Non, mais c'est que des bonnes émotions et des bons moments à passer. Et merci à vous de m'avoir bienvenue. Accueilli et puis de mettre ce club dans la lumière.
Exactement, bravo, il le mérite. Président. Bravo à vous, bravo à toutes vos équipes. Et rendez-vous le 7 septembre prochain donc pour l'ouverture de la saison. Ça va être magique. Merci Olivier Cloarec.
Merci beaucoup.
À très bientôt et bon travail. Avant cela, Denis, Wilfried, il va falloir quand même terminer la saison actuelle. La dernière journée de top 14 n'a pas donné lieu à d'énormes surprises. Hein. Toulouse et le Stade français sont donc qualifiés directement pour les demi-finales. Et les barrages, pour rejoindre ces deux-là en demi, opposeront d'un côté Toulon à La Rochelle, le duel des ports, et de l'autre, Bordeaux au Racing. Faites vos jeux. Qui voyez-vous passer? Est-ce que l'avantage des équipes qui reçoivent sera prépondérant?
Par rapport avec le Bordeaux, effectivement, mais
le souci, c'est qu'ils ont perdu,
quand même l'homme à jouer, le maître à jouer. Donc c'est si
Oui, puis ils ne sont pas sûrs de retrouver De Porter et Buros, qui étaient déjà blessés. Ça fait beaucoup derrière dans la ligne
Ils vont quand même recevoir Chaban dans leur stade, parce qu'en demi-finale, ça sera dans l'autre stade. Chez eux, dans 33 000 personnes, ça y fait quand même. Ça y fait chez eux. Donc j'en mets un petit avantage, sachant que le Racing n'est pas le Racing, alterne le bon et le moins bon, n'est pas constant dans ses performances. Et voilà, je pense je mettrai un petit avantage avec le Bordeaux sur ce match.
Oui, parce qu'il va manquer Jalibert, mais il va manquer le Garek de l'autre.
Le Garek, évidemment. Oui.
C'est Racing sans Nolan Le Garek.
C'est pas la même chose.
Ils ont aussi le frère Le Bail justement à la mêlée, mais bon, sans lui faire offense, mais attention à la fatigue bordelaise quand même, parce que je vous dis, c'est beaucoup Buros, De Porter, faut voir s'ils sont là, s'ils sont pas là en plus de Jalibert.
Voilà, mais le Racing n'a pas montré quand il devait le faire cette saison, que ce soit en Coupe d'Europe en phase finale ou même en championnat, que fallait, quand il fallait taper sur la table, ils n'ont pas toujours répondu présent. Bon, non. Après, sur un match, mais il y a l'avantage de Chaban pour Bordeaux.
Toulon-La Rochelle. Toulon-La Rochelle.
Ouais, c'est, ça va taper, quoi. Hein. Ah là, c'est les Toulousains, ils sont contents dans le canapé avec les pop-corns et les jambes dans la glace.
Moi, hein, je vais vous dire, Toulon m'a vraiment déçu samedi soir, mais un Toulon où il manquait Rebans, qui est la poutre maîtresse en seconde ligne, l'anglais Rebans, qui était blessé.
Est-ce qu'ils avaient pas envie aussi de garder un peu de force?
J'ai parlé avec notre ami François Pesanti, que vous connaissez bien, et effectivement, ils étaient blessés. Les deux, Olivon et Rebans, devaient jouer. Donc ils avaient mis quand même ils avaient l'idée de mettre la grosse équipe.
Rebans
et Olivon ont fait beaucoup défauts à cette équipe toulonnaise samedi soir.
Donc normalement,
ils devraient rejouer ce week-end. Donc un Toulon qui m'a pas fait une grosse impression. Mais bon, on sait qu'il va y avoir des changements. Une équipe type va venir. Il y a Villiers qui va rentrer. Il y a le Black qui va rentrer au centre. L'ouvreur, ce sera Bigard ou Garbizi. Donc, une équipe très compétitive au bout du compte, et je pense qu'ils peuvent battre à Mayol devant leur public à La Rochelle.
Parce que La Rochelle, c'est l'interrogation. Hein. Quel visage La Rochelle? On pensait contre Toulouse, même si l'équipe de Toulouse était remaniée, on avait vu des choses de La Rochelle qu'on ne voyait plus il y a quelques semaines. Et là, à nouveau, il y a eu pas mal d'erreurs face au Racing. Donc,
mais tu sais, les erreurs, moi, je pense que physiquement, ils sont au bout. Ça n'est... Je pense que je ne vois pas.
Je trouve qu'Aldrit n'a pas retrouvé
pas qu'Aldrit.
C'était quand même un symbole, de ce club. Et je trouve qu'il n'a pas retrouvé.
Après, c'est un exploit qu'ils peuvent faire aussi réaliser à Mayol. Attention, il ne faut pas les enterrer.
Sur ce match-là, oui, mais on en parlait dans l'after rugby après la 26e journée à l'antenne samedi soir. Ces clubs-là, enfin, La Rochelle, a presque 4 matchs de phase finale parce qu'ils ont dû battre leur employé pour battre le Racing. Derrière, ils vont à Toulon, imagine s'ils faisaient un exploit. Derrière, ils arrivent sur Toulouse avec ces deux matchs dans les jambes. Alors que Toulouse, messieurs, entre la finale de Champions Cup gagnée contre Leinster et la demi-finale à Bordeaux, la majorité des cadres n'auront pas joué à Toulouse. Ouais. Ça veut dire qu'ils se reposent. Donc c'est un parcours du combattant pour les barragistes qui avaient la 26e journée aussi très, très forte. Quoi. Toulouse, ils ont envoyé l'équipe C, entre guillemets, à Lyon.
Alors, il y a toujours le problème, fraîcheur ou rythme. Bon,
pense qu'à ce niveau-là,
année de Coupe du Monde, vaut mieux avoir de la fraîcheur. Je pense que c'est indispensable. Donc on aurait un Toulouse-Toulon, un Toulouse-La Rochelle. De toute manière, ce seront des classiques du rugby français.
Tu peux avoir
un
Stade Français Racing.
Et tu peux avoir Stade Français Racing de l'autre côté, au Stade Français...
Le barrage l'an passé où le Stade Français a perdu à domicile.
Bref,
venez-vous.
Ça va être magnifique.
Ah, ça va être magnifique. Ouais.
Ça va être magnifique. Attends, on rappelle donc les horaires et les jours de ces matchs. Samedi 21h05 à Mayol pour Toulon-La Rochelle et dimanche à la même heure à Chaban pour UBB Racing. Un mot, messieurs, également pour finir sur le barrage d'accession entre Montpellier et Grenoble. Deux équipes meurtries, l'une par sa saison cataclysmique et l'autre par sa défaite en finale de Pro D2. Tiens, à ce sujet, on va écouter Nicolas Nadeau, l'entraîneur de Grenoble, évidemment très déçu après la défaite face à Vannes. On va l'écouter. Ses propos sont assez durs quand même. On l'écoute.
Te dire ce qu'on va faire. On va aller voir nos familles. On va pleurer un bon coup avec eux. Et puis on va se remobiliser derrière. On va libérer cette frustration. On va libérer tout ça. Et puis on nous a crevé les pneus toute la saison. On est remonté dans le bus. On a roulé. On a continué à avancer. On a voulu la Ligue. Il fallait absolument le territoire breton. Il fallait tout. On a tout eu. Quand je dis tout, je pourrais en mettre d'autres encore, et je reste gentil. Et ce groupe, malgré ça, a pris des coups, s'est relevé en permanence. Et ce groupe, encore une fois, a des ressources monumentales. J'ai foi en eux, j'ai foi en ce qu'on va produire la semaine prochaine. J'espère que le Stade des Alpes sera plein, parce qu'un Stade des Alpes plein, ça stimule, ça amène, ça propulse, ça pousse toute une équipe. Et je pense qu'ils vont vraiment, vraiment, vraiment avoir besoin de ça.
Il y avait beaucoup d'émotions chez les Grenoblois. Alors, il va falloir qu'ils basculent du bon côté, parce que même le capitaine Steve Blanc-Mappaz est venu, à un moment il a dit, on t'a vu marcher vers les supporters, il a dit, il fallait que j'aille les remercier, il a fondu en larmes. Donc ils étaient très déçus. Alors c'est vrai qu'ils ont une saison particulière avec des points rétrogradation, puis ils sont maintenus, des points en moins. Donc le sportif s'est ressoudé, mais ils étaient seuls contre tout. C'est pour ça qu'ils parlent de ça.
J'ai bien peur que la fraîcheur fasse la différence, malheureusement.
Et de se remettre, Denis, de cette émotion qu'ils ont vécue.
Oui, l'émotion,
ça a pleuré, c'est pas facile.
Même physiquement, je trouve que c'était un match quand même très intense. De l'autre côté, Montpellier a fait beaucoup tourner et va récupérer 15 nouveaux joueurs qui vont être frais.
Sincèrement, je ne vois pas comment Montpellier va perdre à Grenoble. Je ne vois pas.
Attention ce match, hein,
malheureusement,
parce que
malheureusement pour le Grenoble.
Montpellier sur le papier.
Souvenez-vous l'an passé quand même. Perpignan était gagné là-bas.
Largement.
Largement. Largement.
Oui, mais les Perpignanais en parlent encore et disent tout le temps qu'ils avaient joué deux fois l'Access Match et disent que c'est très très difficile à vivre un Access Match comme ça. La pression est énorme. Je suis d'accord avec toi sur le papier. Montpellier est costaud, sur le papier, une équipe très forte. Voilà, c'est mentalement des deux côtés comment on appréhendra ça. Ouais. Voilà, si le stade est plein, s'ils arrivent à retrouver la flamme, les Grenoblois, parce que c'est une équipe qui joue beaucoup, qui n'a pas joué. Qui n'a pas été tueur, qui n'a pas joué assez en finale, ils le regrettent. Voilà.
Alors qu'ils avaient roulé sur leurs adversaires jusque-là quand même.
C'est la meilleure attaque de Pro D2. Ils avaient mis 50 points à Dax, ils gagnent à Aix, le leader. Et voilà, ils ont sur la dernière marche. Voilà. Comment ils se seront remis, ce sera la clé de l'Access Match. Pour le seul, une des deux sera en top 14.
Ce match, Access Match, c'est terrible. Hein. Tu joues ta vie là-dessus. Une finale de championnat, c'est super important parce qu'il y a le titre et tout. Mais derrière, tu es battu, c'est pas grave. Là, tu as une conséquence. Tu as une conséquence positive si tu passes, tu changes de
ouais,
division.
Mais la pression se tourne là, Christophe. La pression pour Grenoble, ils avaient une pression presque négative sur la finale parce qu'il y a la peur de pas. On l'a vu dans le match.
Ouais.
Pas
moi, je trouve que la pression, elle est davantage sur les Montpellierains. Hein.
Bah oui, là, la pression, elle tourne. Tu es à domicile, toi, tu
Grenoble. Quand t'es passé tellement près comme ça, que t'as dominé la saison en Pro D2, que tu bats le leader chez lui, t'arrives, tu dois accéder au top 14.
Ils sont en Pro D2, ils le resteront quoi qu'il arrive, si ça se passe mal. Montpellier. Montpellier en 80 minutes.
Accident industriel s'il passe pas.
C'était pas tendu. Très bien. Il y a deux ans, champion de France, c'était pas tendu.
Voilà. Nous verrons ça dimanche prochain, 18h, Stade des Alpes de Grenoble pour cette rencontre donc entre Montpellier et Grenoble. Merci les garçons.
Tu pars en vacances, non ?
Oui, je vous laisse. Je vous laisse finir la saison. Moi, je vais attaquer le Tour de France bientôt. Donc,
tu vas en France, en Italie.
Voilà, je pense que vous serez à Marseille quand même pour la finale. Je vous enverrai une petite photo de Florence.
D'accord.
On mangera des glaces.
Tu me diras, okay. C'est là où je vais faire un tour au mois de juillet, Florence.
Ah, ben, très bien. Je te donnerai les adresses. Ciao. Merci les garçons. Bonne fin de saison. Et entre les poteaux, reviens évidemment la semaine prochaine. Bonne semaine. Ciao.